bonsoir, comment allez-vous? Alors, on met du gel bien partout, on met le masque et c'est parti. Tu ouvres la porte d'entrée avec les mains, donc tu remets du gel. Tu refermes la porte d'entrée, tu remets du gel. Ben oui, tu l'as touché. Ben, fallait la fermer avec les pieds. Tu appelles l'ascenseur, tu remets du gel. Tu appuies sur rez-de-chaussée, tu remets du gel. Évidemment, t'as rectifié ton masque devant la glace de l'ascenseur, tu l'as touché. Tu vois, heureusement que t'avais les mains propres. Tu sors de l'ascenseur en poussant la porte, tu remets. Bon, d'accord. On a encore des portes à pousser, à tirer, des boutons à enfoncer. On attend d'être sorti pour remettre du gel. Bon, on est dans la rue maintenant, on peut remettre du gel. Où est-il? Ben, ton gel. Dans ton sac? Mais tu vas toucher ton sac sans avoir mis de gel, puisque ton gel est dans ton sac. C'est la kélosse. Tu emmènes les microbes dans ton sac. Finalement, on aurait dû remettre du gel avant. Prends le mien, et quand tu auras les mains propres, tu iras chercher le tien. Hé, mais t'as touché ma bouteille de gel avec tes mains où t'avais pas mis de gel? T'as mis des microbes sur ma bouteille? Maintenant, il faut passer ma bouteille de gel au gel? Arrête de toucher ton masque! Ça te gratte, c'est pas une raison. Tu peux l'enlever pour fumer si tu veux. Mais pas pour te gratter. Quoi? Tu as enlevé ton masque pour faire un sourire? Mais t'es folle! Un sourire? Un sourire? Mais pourquoi faire?
Oui, bonjour, je m'appelle William, j'ai 8 ans et demi. Je suis en CE2, je voudrais savoir pourquoi les animaux ne sourient pas.
Bonsoir William, c'est Dominique Lestel qui va te répondre. Pourquoi les animaux ne sourient pas, vous demande-t-il?
Ben les animaux ne sourient pas, je ne sais pas en fait, mais la question que je me pose, c'est comment je me rendrai compte si les animaux sourient. C'est-à-dire que je vois que l'humain sourit parce qu'il a un mouvement des lèvres qui est très particulier, il a les yeux qui brillent d'une certaine façon, il a une posture corporelle qui me laisse à penser qu'il sourit. Maintenant, imagine un perroquet. Comment est-ce que je peux savoir qu'un perroquet sourit? Avec son bec, c'est tout à fait difficile de sourire. Même si le perroquet peut avoir une petite lueur ironique dans le regard. Donc, c'est très difficile de comprendre qu'un animal sourit, même un grand singe, un chimpanzé ou un gorille. C'est très difficile de voir qu'il sourit parce qu'il n'a pas la configuration des lèvres, la configuration de la bouche qui est similaire à la nôtre. Et le sourire est quelque chose, une expression de la bouche qui est extrêmement subtile. Donc, on pourrait considérer que, je pense, l'humain est l'une des très rares espèces à pouvoir sourire, mais pas parce qu'elle a une supériorité quelconque sur les autres espèces, mais parce qu'elle a une configuration anatomique et psychologique, cognitive, qui lui permet de pouvoir non seulement avoir envie de sourire, mais également de pouvoir l'exprimer corporellement de façon efficiente.
C'est vrai, Dominique Lestel, finalement, nous humains, on peut manifester une grande joie, on peut rire, mais on peut aussi sauter en l'air, taper des mains, chanter, enfin on peut manifester un véritable contentement comme les animaux, avec tout notre corps. Mais le sourire, c'est pas une grande manifestation d'excitation et de joie, c'est autre chose en fait.
Tout à fait. Donc on peut voir chez certains chimpanzés, par exemple, ou chez certains orang-outans, de temps en temps, une lueur maligne dans l'œil. Mais c'est pas exactement le sourire. C'est un rapport à l'autre, un rapport à la situation, un certain décalage perçu comme tel et apprécié comme tel, qu'on pourrait considérer comme relevant du sourire. Mais il n'y a pas vraiment de sourire au sens propre du terme.
Et le ronronnement? Un peu comme le sourire, non, c'est autre chose.
Peut-être qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là à chercher. Et rappelez-vous que le grand écrivain Lewis Carroll, qui a écrit Alice au pays des merveilles, parle justement d'un sourire de chat tout à fait fameux, le sourire du chat du Cheshire. Avec cette particularité, et peut-être est-ce un indice de la difficulté de la notion, cette particularité donc que dans le roman, on voit tout à coup le chat qui disparaît, qui s'estompe, et seul son sourire subsiste.
Ah, Dorothée Barba dans Barbatruc dimanche dernier parlait justement du sourire du chat d'Alice au pays des merveilles. Là, nous sommes dans les petits bateaux. Vous connaissez le principe de l'émission, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé si on connaissait l'origine de la langue basque, comment on démontait une grue après un chantier et s'il suffisait de laver à l'eau des fruits des bois ou des champignons avant de les consommer. Vous avez posé ces questions au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 8 ans, et je voudrais savoir pourquoi les seins des femmes après l'allaitement ne se dégonflent pas. Au revoir.
Merci Hugo. Un homme formidable qui s'intéresse au sein et à l'allaitement. Que c'est beau. Chantal Birman, vous êtes sage-femme. Pourquoi les seins des femmes ne se dégonflent pas après l'allaitement, demande Hugo. D'abord, est-ce qu'il a raison?
Alors, il n'a pas tout à fait raison. C'est-à-dire que pendant l'allaitement, les seins commencent à se dégonfler. C'est-à-dire que le moment où les seins sont les plus gros, c'est au moment de la montée de lait. Et c'est là où il y aura le moins de lait dans les seins. C'est-à-dire que c'est quasiment inversement proportionnel. La taille du sein n'a rien à voir avec le lait.
Ah bon?
Et le fait que les seins se dégonflent, justement, ouais, pour reprendre les termes d'Hugo, là, c'est la deuxième raison pour laquelle les femmes arrêtent d'allaiter. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont plus de lait. Pourquoi? Parce que non seulement les seins vont se dégonfler, mais encore vont-ils être un peu plus mous, hein, de plus en plus mous au fur et à mesure de la durée d'un accouchement. À 6 mois, on peut avoir une poitrine qui est un petit peu inférieure en taille à la poitrine qu'on avait avant d'être enceinte. Voilà. Et donc, dans beaucoup de têtes de femmes, cette diminution de volume de la poitrine leur fait penser qu'elles ont plus de lait. Alors que la seule référence pour savoir si elles ont plus de lait, ben, c'est de peser le bébé. Si le bébé grossit, elle a forcément du lait.
Donc, on peut avoir du lait avec des petits seins et pas de lait avec des gros seins.
Exactement. On peut pas quasiment n'avoir pas de lait. C'est rarissime.
Ah bon ?
Si on n'a pas de lait, si on fait un allaitement mixte. C'est-à-dire si on complète l'allaitement maternel par des biberons de lait artificiel. C'est rarissime, à moins qu'il y ait une malformation de la glande mammaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est rarissime. C'est le bébé qui fabrique le lait. Et c'est ça qui est compliqué à penser. C'est que les seins sont à la mère et lui appartiennent. C'est-à-dire que ça appartient à la mère de savoir si elle veut allaiter ou pas allaiter, de donner ou pas donner les seins. Par contre, le lait appartient à l'enfant. C'est lui qui le fabrique. Sans enfant, vous auriez pas de lait. Il fabrique et la quantité et la qualité et l'espace entre les tétés et comment il va dormir par rapport à tout ça.
C'est le
bébé qui fabrique son lait. Donc c'est ça qui est compliqué parce qu'on a toujours l'impression que c'est la maman.
Donc faut l'écouter.
Non seulement il faut l'écouter, mais il faut croire à un truc qui est incroyable, c'est à sa compétence de faire monter le lait et de faire les bonnes quantités, la bonne qualité. Un bébé est compétent. Et entre autres, dès qu'il naît, il sait téter. Et il va améliorer sa succion avec sa mère au fur et à mesure de l'allaitement.
C'est quand même formidable, l'allaitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chauffe-biberon, on n'a pas besoin de biberon, on n'a pas besoin de lait en poudre, on n'a pas besoin d'eau. On a tout le matos, quoi. C'est génial.
C'est toujours qu'un faux départ. Sans changement d'adresse, j'ai beau vider les placards, je retourne ma veste. Quand c'est moi qui pars, c'est que l'autre reste. Pourtant, tous les soirs, je fais semblant de croire au jeu de rôle sans dénoncer ma trop longue histoire. Si tu cherches la bagarre, sache qu'on en presse. C'est un peu tôt ou trop tard pour faire des politesses. Mais si on s'accorde quelques
extrait de notre playlist « C'était drôle d'histoire, Junior ».
Les petits bateaux sur France Inter.
Quand on ramasse des champignons, on se demande tout le temps s'ils sont bons ou pas bons, s'ils sont toxiques ou s'ils sont consommables. Là, la question est intéressante. Elle ne porte pas sur le champignon qui serait toxique ou pas toxique, mais sur la façon de le préparer.
Ici Michel, de bientôt 70 bougies. C'est la pleine saison des champignons, mais malheureusement, si l'on ramasse des champignons sur lesquels un renard atteint d'une certaine maladie à uriner, on peut mourir en les mangeant. J'aimerais savoir si le fait de les laver soigneusement, voire en les brossant, on peut éviter ou non ce danger. Merci, à bientôt.
Bonsoir Michel. Michel qui pose une question longue, comme tous les adultes. Les enfants posent des questions courtes et les adultes posent des questions longues. Nous avons remarqué ça au petit bateau. Longue, mais pertinente. Marc-André Sellos, vous êtes professeur du Muséum d'Histoire Naturelle et vous êtes spécialisé en botanique et en mycologie, c'est-à-dire en plantes et en champignons. Michel nous parle de champignons et Marc-André Sellos, vous avez écrit « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé ». Et c'est édité chez Actes Sud. Alors, il veut savoir si ça suffit de les laver, en fait, ces champignons, Michel.
Oui, et alors, en fait, les champignons, c'est une chose, mais on les mange rarement crus, hein, mais il y a aussi tous les petits fruits qu'on récolte en forêt, fraises, framboises, myrtilles. Est-ce qu'on peut les manger crus? Ben non, parce parce qu'il y a des petits vers parasites des renards qui se dispersent par les crottes de renard. Et donc, si ce que vous mangez a été un peu contaminé par des crottes de renard, et ça se voit pas toujours, eh ben, vous risquez d'être atteint de ce ver. Or, ce ver, quand il s'installe chez vous, eh ben, il s'installe dans le foie, et il grossit en une espèce d'énorme kyste. Il peut devenir tellement gros que votre foie fonctionne plus, vous avez plus de foie, et quand on commence à voir ça, bah, c'est un peu l'horreur, parce qu'il va falloir faire une opération pour retirer ce kyste, et souvent, au moment où on s'en aperçoit, il est un peu tard. Ça, c'est une maladie professionnelle qu'ont beaucoup de forestiers, qu'ont beaucoup d'agriculteurs, des gens qui sont souvent dans la nature, et qui donc sont souvent en présence des œufs de ce ver.
Et ça s'appelle comment, cette
joyeuse? C'est l'échinococcose alvéolaire. Et c'est une sorte de ténia, hein, pour dire les choses biologiquement. Et c'est vraiment une maladie professionnelle, ennuyeuse, surtout dans l'Est de la France.
Mais si ça se passe par les crottes, Marc-André Sellos, c'est plutôt dans ce qui ira du sol, alors pas les murs qui sont en l'air.
Eh bien, tout à fait, Noël. Ça, c'est effectivement ce qu'il faut que Michel retienne, c'est que tout ce qui prend en l'air, s'il récolte des champignons, par exemple, comme des pleurotes sur les arbres, ou s'il récolte des mûres, des framboises, les renards, ils font pas caca en sautant, hein. Alors tout ce qui est au sol, c'est simple, il faut le cuire. Donc vous pouvez ramasser des fraises, des bois et des myrtilles, puis vous faites des tartes ou des confitures. Et attention, contrairement à une idée reçue, la congélation. On pourrait se dire qu'en congelant...
Bah oui.
Ah oui, non mais les œufs ils sont résistants à la congélation. D'accord. La congélation à moins 20, ça ne tue pas. Donc, eh bien, tout ce qu'on ramasse à hauteur où un renard peut avoir fait caca, c'est simple, on le cuit.
Bon appétit, bien sûr. Échinococcose alvéolaire. Échinococcose alvéolaire. Oh bon, il ne voit que la Covid, hein.
Bonjour, je m'appelle Louise. Je voudrais savoir comment on démonte les grues après un chantier. Merci, au revoir.
Bonsoir Louise et merci pour cette question qui va vraiment en intéresser plus d'un. Alors Louise, nous avons demandé à un grutier. Éric Etival, vous êtes grutier et formateur au centre de formation Émile Picot à Malemort en Provence et vous êtes le fondateur du site grutier.net où tu pourras aller, Louise, dans quelques temps. Comment on démonte les grues après un chantier, demande Louise.
Très bonne question. Donc d'abord, il faut savoir qu'il existe différents types de grues, voilà, qui ne se démontent pas toutes de la même manière. Donc il y a des grues qui se montent automatiquement, d'où leur nom, grues à montage automatisé, et il y a des grues qui se montent par éléments. Donc les plus grandes grues que l'on voit dans le paysage, dans les villes, tout ça, donc ce sont des grandes grues qui, elles, se démontent pièce par pièce. Et elles se démontent à l'aide d'une autre grue, c'est un camion-grue, que l'on voit des fois dans les villes, avec des flèches télescopiques. Et c'est grâce à cet engin-là qu'on va démonter donc, les grues à tour.
Donc une grue démonte une grue.
Une grue démonte une grue.
Et j'imagine qu'une grue a monté cette même grue.
Ben exactement. Le montage, le démontage se fait exactement de la même manière.
Alors quand vous dites, Eric Etival, pièce par pièce, la pièce, elle a la taille d'un fauteuil ou d'une voiture?
Ouh là là, on se rapproche plus de la taille d'une voiture. Ce sont des pièces qui peuvent avoir plusieurs tonnes, pour certaines, qui peuvent arriver jusqu'à 5 tonnes. Alors on commence par enlever les gros blocs de béton qui se trouvent à l'arrière de la grue. Ensuite, on va démonter la partie avant, qu'on appelle la flèche. Ensuite, on va démonter toute la partie verticale jusqu'à la base. Et toutes ces pièces-là seront chargées sur des semi-remorques et iront sur d'autres chantiers.
Dites donc, ça doit faire un sacré train de camion quand la grue s'en va.
Oui, tout à fait. Donc, on peut avoir, suivant les modèles de grue, jusqu'à 5 ou 6 semi-remorques.
Vous faites ça en pleine nuit, ça bloque la circulation complètement?
Pas obligatoirement, ça peut se faire en plein jour. Bon, en plein jour, c'est sûr qu'en ville, ça peut occasionner quand même pas mal de problèmes, puisqu'il faut faire de la circulation, ça prend beaucoup de place, il y a beaucoup de camions qui doivent stationner.
Et Eric Etival, quand on démonte une grue, j'imagine qu'on a un plan. Et quand on la monte, on a un plan.
En général, toutes les grues se montent, se démontent toutes de la même manière. Donc ce sont des personnes spécialisées qui montent, qui démontent les grues. On appelle ça des monteurs. Ils ne font que ça, c'est leur travail.
Il y a des filles dans ce métier?
Oui, on a déjà eu dans le centre de formation où je travaille jusqu'à 10 femmes qui sont venues, pas tout en même temps, mais qui sont grutières, qui sont toujours grutières actuellement.
Et dernière question, quand la grue est d'une seule pièce, alors elle ne se démonte pas, ça se passe comment pour l'enlever, pour répondre à Louise?
Oui. Alors c'est une grue, elle est toute articulée, ça fait passer un peu un compas, un compas d'écolier voilà, qui se plie, se déplie comme ça. Elle est conçue avec tout un tas d'articulations et ensuite, une fois qu'elle est repliée, elle est tractée derrière un camion.
Elle est en une seule pièce repliable.
Repliable, d'où son nom, grue à montage automatisé.
Dans ces grues, est-ce qu'il y a des écrous, des vis, des boulons
Alors oui, il y a des grues qui sont assemblées à l'aide soit de boulons, soit avec des axes et des goupilles. Donc des axes, c'est des grosses barres en fer percées, donc dans lesquelles on va mettre des goupilles. Et tous ces axes et tous ces boulons sont récupérés, bien sûr, pour le montage futur d'une autre grue.
Atomic, c'était Blondie sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Deux compagnes de grands peintres me sont tombées dans les bras cette semaine. La première, Aline, grâce à Télérama, qui, en évoquant la maison d'Auguste Renoir dans l'Aube, nous raconte que c'est Aline Charigot, une enfant du pays, qui a convaincu le peintre d'acquérir cette maison. Renoir avait rencontré Aline dans une crèmerie de la rue Saint-Georges à Paris. Elle deviendra son modèle, puis bien plus tard, son épouse. L'autre, c'est Rieur Tje. Nous sommes dans les années 50, 1650, à Amsterdam cette fois. Et Rieur Tje est la compagne de Rembrandt. Et là, les choses se passent beaucoup moins bien. Rembrandt, après l'avoir répudié, a fait embastiller Rieur Tje pour 12 ans, car elle n'a pas voulu lui rendre les bijoux qu'elle avait reçus aux belles heures de leur amour. L'histoire a toujours été du côté de Rembrandt, jusqu'à la sortie de ce livre qui a été traduit en français cet été. Il s'agit de La maîtresse du peintre aux éditions Philippe Rey. Il n'a pas encore été traduit en basque.
Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 12 ans et je voudrais savoir si c'est vrai qu'on ne connaît pas l'origine de la langue basque. Merci de me répondre.
Bonsoir Robin. David Louapre, dans votre dernier livre, Insoluble mais vrai, édité chez Flammarion, vous avez un chapitre consacré aux origines de la langue basque. Pourtant, vous n'êtes pas linguiste, mais physicien, mais vulgarisateur, scientifique.
Oui, alors bonsoir Robin. Tout d'abord, tu as raison, on se pose beaucoup de questions sur l'origine de la langue basque. Déjà, de manière générale, en fait, on se pose beaucoup de questions sur l'origine des langues. Il faut voir qu'une langue, c'est pas quelque chose de figé, les langues évoluent. Le français qu'on parlait il y a 250 ans n'est pas tout à fait le même que celui qu'on parle aujourd'hui. Une chose en particulier, c'est que il se passe un peu la même chose avec les langues que ce qui se passe avec les animaux. C'est-à-dire que on a un phénomène d'évolution et qu'on peut avoir des langues qui dérivent les unes des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on sait bien. Par exemple, on sait que le français, de même que l'italien ou l'espagnol, trouve leur origine, par exemple, dans le latin. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien du fait des ressemblances de certains mots dans les langues, et notamment les mots, on va dire, les plus fondamentaux de la langue. Alors, on peut prendre l'exemple du mot la nuit. Donc, on va dire nuit en français, on va dire night en anglais, on va dire nacht en allemand, noce en espagnol, noté en italien. Donc, tous ces mots se ressemblent. Et la raison pour laquelle ils se ressemblent, c'est que tout ça dérive, en fait, d'une langue commune qui était parlée il y a longtemps, un peu de la même façon que des animaux, par exemple, si on prend les hommes et les grands singes, dérive d'un ancêtre commun qui existait il y a quelques millions d'années. Donc de ce point de vue-là, la linguistique, en tout cas sur cet aspect, ressemble un peu à la biologie de l'évolution. Alors qu'est-ce qu'on sait sur l'origine des langues qu'on connaît ? Eh bien, on essaie de reconstituer en quelque sorte un peu un arbre généalogique des langues. Et si on prend l'exemple des langues européennes, on se rend compte qu'elles dérivent toutes probablement d'une langue commune qu'on appelle l'indo-européen, qu'on ne connaît pas exactement, qu'on arrive un peu à reconstituer sur la base des ressemblances entre mots. Et cet indo-européen, en fait, il serait né vraisemblablement en Asie centrale, il y a plusieurs millénaires. Alors les hypothèses varient, mais disons du côté de il y a 6-7 000 ans. Toutes les langues qu'on parle en Europe aujourd'hui dérivent de l'indo-européen. Alors en fait, toutes non, pas vraiment. Il y a quelques langues qui ne ressemblent pas du tout et qui ne collent pas du tout dans le portrait. Il y en a trois notamment, c'est le finlandais, le hongrois et l'estonien. Alors vous allez me dire, quel rapport entre ces trois langues ? Eh bien, on ne sait pas bien, elles sont parlées dans trois endroits différents de l'Europe, mais on sait d'une part qu'elles ne dérivent pas de l'indo-européen et d'autre part qu'elles sont apparentées entre elles. Donc ces trois langues-là se ressemblent entre elles. À côté de ça, on a l'indo-européen, on a d'autres langues dans le monde et puis on a quelques langues qu'on arrive à rapprocher d'aucune autre. Et c'est notamment le cas du basque. C'est-à-dire que le basque ne ressemble à aucune autre langue qu'on connaît. Ça se voit d'ailleurs par le fait qu'il y a quelques tournures grammaticales ou quelques règles de grammaire qui sont très très bizarres, très spécifiques, qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues. Alors les linguistes, pour essayer de comprendre l'origine du basque, ont essayé quand même de trouver des ressemblances. Alors il y en a quelques-uns qui ont proposé des ressemblances avec le géorgien, mais finalement, à la fin, on a conclu que elles n'étaient pas apparentées. Il y a même un linguiste qui a proposé que c'était proche du dogon, qui est une langue qui est parlée au Mali. Alors ça c'est pareil, c'est une hypothèse un peu extravagante qui a été vraisemblablement invalidée. Donc on ne connaît pas l'origine exacte de la langue basque, mais évidemment c'est très certainement lié à l'histoire du peuple basque, c'est-à-dire comment les gens qui forment le peuple basque aujourd'hui...
Qui sont des voyageurs.
Voilà, alors justement, qui sont des voyageurs, et donc on arrive à faire des hypothèses sur comment le basque a pu émerger. Et l'hypothèse dominante aujourd'hui, c'est celle d'un mélange entre des peuples qui auraient émigré dans l'actuel Pays Basque, plutôt à l'époque de l'apparition de l'agriculture, en tout cas de l'époque où l'agriculture s'est répandue en Europe, donc des migrants qui seraient arrivés dans cette région, qui se seraient mêlés aux peuples locaux, qui étaient encore des chasseurs-cueilleurs, hein, comme à la préhistoire, et puis qui finalement auraient formé le peuple basque, auraient formé la langue basque. Et comme la région est restée pendant longtemps relativement isolée, c'est montagneux, c'est compliqué, il y a eu peu de nouvelles migrations, et voilà. On pense que c'est comme ça que serait apparu à la fois le peuple basque et la langue basque, mais c'est très difficile en fait d'avoir des certitudes.
Dans quelques domaines que ce soit, un mystère non élucidé, c'est toujours bien excitant. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux ou bien les podcaster par franceinter.fr. Jean-Baptiste Audibert, Florent Bugeon, Marjorie Devoucoux, Eliane Gérard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 19h30.